Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même, pour la souffrance, le Seigneur même, il est amour. Je vais dire toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour.
À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, Agneau de Dieu.
Il ne viendrait probablement à l'idée d'aucun d'entre nous d'adorer une idole de façon délibérée. Cependant, aussi étrange que cela paraisse, le Dieu qui s'est imprimé dans notre esprit est la plupart du temps issu de conceptions erronées transmises par notre milieu, par une certaine religion ou encore par notre imagination. Le Dieu de la Bible est tout différent. Par exemple, une attitude courante tend à croire que Dieu est tellement saint et juste qu'il est pratiquement inaccessible. L'homme ne peut l'approcher, et cela fait de lui un être coupable de ne jamais consentir à se pencher sur le vermisseau que nous sommes. Loin de moi l'idée de vouloir dépouiller le Créateur de sa transcendance par rapport à l'être de chair appelé homme. Mais malgré tout, je ne puis m'éloigner de la bonne nouvelle que l'apôtre Paul m'apporte dans le troisième chapitre de sa lettre aux Romains. Maintenant, sans la loi, dit-il, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il est incontestable que le Christ représente la solution au concept du Dieu inaccessible d'il y a quelques instants. Sa sainteté, sa justice, peut selon toute évidence devenir nôtre. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Pierre presse chaque chrétien en ces termes. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Pierre dit en substance, le saint et juste Dieu de l'homme et de l'histoire est accessible. Vous pouvez même participer à sa nature, à sa vie. Parfois, lors d'événements particuliers survenant dans leur vie, certains se souviennent du Dieu de leur enfance. Leur réaction seconde est de se dire, « Il est trop loin pour comprendre ma situation, pour entendre mon cri de détresse, pour répondre à mon appel. » Et la révolte suit. « Pourquoi me fais-tu ça à Dieu ?» Le Créateur devient alors un coupable. « Mais oui, c'est vrai !» Dieu est bien trop occupé à diriger cet univers si vaste, et qui le devient de plus en plus après chaque nouvelle pénétration de l'espace. Comment pourrait-il dès lors s'occuper de mes petites nécessités personnelles? Il y a bien des siècles en Égypte, un groupe d'esclaves aurait certainement contesté ce point de vue concernant Dieu. Et vous aurez dit, mais non, il vous écoute, il vous entend, il vous répondra. Leur cas était sans doute plus critique encore que le vôtre. Le roi d'Égypte, nous dit la Bible, mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous les servitudes et poussaient des cris. Les cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Plusieurs centaines d'années après que Dieu eut délivré son peuple de la servitude égyptienne, son fils s'écria, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? » Notre Dieu sait. Il est concerné et aide tous ceux qui lui obéissent et qui élèvent vers lui leur prière. Il existe des personnes qui considèrent que Dieu condamne sans rémission et rejette définitivement le pécheur. On interprète souvent très mal les descriptions de Dieu faites dans l'Ancien Testament pour faire de lui un Dieu courroucé, vengeur, totalement dépourvu d'amour. En bref, un créateur qui condamne et ne pardonne jamais. Dans le livre de l'Exode, le Père Céleste, en parlant directement à Moïse, donne de lui-même une image assez précise quant à sa nature. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui
conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Une lecture lucide des 10 commandements confiés peu après au même Moïse et destinés à régir la nation d'Israël dénote que Dieu ne condamne jamais sans tout d'abord avoir aimé profondément, mais qu'il ne se considère par contre jamais le péché de l'âme avec faiblesse. Le psaume 103 dit bien que la bonté de Dieu dure à jamais pour ceux qu'il craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. La plus grande partie du comportement anormal d'une certaine couche de délinquants provient d'une fausse conception de Dieu et de la réaction négative qui en résulte. Il est évident que si on ne se considère pas comme étant une des créatures d'un Dieu d'amour et souverain, qui a modelé chaque être humain à son image, on ne pourra jamais accepter la réalité d'une valeur ultime dans sa vie. Un être qui rejette l'idée d'avoir été créé à la propre image spirituelle de son Dieu ne dispose pour construire sa vie que d'une fondation trop mince, trop branlante. Il perd une portion importante des motivations, des buts, de la morale qui peuvent donner une valeur et un sens réel à son existence. Si, comme tant de gens le croient, la vie n'est pas faite pour suivre la voie souveraine de Dieu, pourquoi dès lors ne pas retirer de l'existence le maximum de profit, le maximum de plaisir personnel? Pourquoi s'occuper des autres? Pourquoi, après tout, faire une distinction entre le bien et le mal? Seuls ceux qui acceptent le concept d'un Créateur Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, sont à même d'apprécier les pensées suivantes exprimées par Jacques. Vous, maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ignorer et ne pas croire au Dieu de l'homme et de l'histoire, c'est demeurer sans cette dimension qui appartient à la raison pure, c'est-à-dire en dehors de l'espace et du temps, ces deux concepts transcendentaux sans lesquels la vie n'est plus qu'un long cheminement vers le néant. C'est ce que fait comprendre Jésus lorsqu'il enseigne. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Tout ceci explique peut-être pourquoi l'immense majorité des délits commis dans le monde le sont contre la propriété d'autrui. L'objet d'une adoration détermine la qualité de la vie. Comme le dit Jésus, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. De nos jours, vous et moi pouvons connaître Dieu si nous le désirons. Nous pouvons même avoir de lui une conception assez précise, car Jésus nous aide à lever tout malentendu, toute image, toute fausse idée le concernant. Le Christ et sa fonction nous sont dépeints avec clarté par l'apôtre Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Le Fils de Dieu vivait avec et était dans la nature de Dieu dès avant la création des éléments matériels de notre globe. Mais cette éternité ainsi que sa divinité étaient fixées dans le temps et dans l'histoire. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et si encore Jean, il n'y a donc plus aucune raison pour que l'homme se méprenne sur le caractère spécifique de son Dieu et sur les relations qu'il entretient avec ses créatures, les êtres humains. L'apôtre Paul explique que Jésus-Christ, bien qu'existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu nous a aimés en son Fils, au sein même et en dépit de notre état profond de péché, d'antagonisme contre lui, en dépit de nos inimitiés. Jésus explique encore, l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, ne s'est pas sacrifié pour l'homme bon, encore moins pour le juste, mais pour l'impie, le pécheur, le méchant, le rebelle, c'est-à-dire pour celui qui pensait et qui croire sans toi que Dieu ne l'aime pas. Avec l'avènement de Jésus, la question d'un Dieu d'amour, d'intérêt, miséricordieux, pardonnant, s'est trouvée résolue à jamais. L'amour de Dieu, dit la première épître de Jean, a été manifesté envers nous, en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour le péché. Dieu est venu sur terre par le truchement du Christ pour se rendre disponible à tous ceux qui désiraient son amitié, son amour, son pardon. Dieu est venu en Christ, n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais pour mettre en nous la parole de la réconciliation. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous appelle à la repentance. Il nous supplie de renoncer au péché qui règne dans notre vie. Et de concert avec Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui mourut pour vous et moi, l'Éternel nous demande, premièrement, de venir à lui, afin de vivre une existence basée sur une pleine responsabilité envers la justice qu'il édicte avec amour. Deuxièmement, de confesser de la bouche Jésus comme étant notre Sauveur. Troisièmement, de lui permettre de nous pardonner tous nos péchés en nous unissant à Jésus dans les eaux du baptême. Quatrièmement, de nous aider à vivre en disciples soumis de ce Christ auquel nous dédions notre existence. Est-ce là le Dieu cruel guettant chaque individu pour le punir éternellement? Est-ce là le Dieu à craindre ou le Dieu à aimer? Est-ce là votre Dieu?
Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement en tant car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms et ne sont rattachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef est Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas.
Le Seigneur m'aime, il est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, il est amour.
Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130, Palma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130, Palma. Au revoir. Que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur m'aime, pour notre suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je le dirai.